Les JAT, ça correspond à ce que les sociologues appellent une caste dominante. C'est-à-dire non pas une caste qui va être considérée comme supérieure parce qu'elle, enfin du fait de son statut sur l'échelle de la pureté rituelle, comme on dit, mais plutôt une caste qui, en fait, donc malgré un statut religieux intermédiaire, est puissante au niveau local par l'effet cumulé de son nombre. Et aussi de sa mainmise sur la propriété foncière et agraire, et surtout sur le pouvoir politique et les hiérarchies locales. Les JAT représentent en effet 30% de la population de l'État de l'Ariana, qui donc borde Delhi. Ils possèdent de nombreuses terres, la plupart des plus gros agriculteurs et des propriétaires terriens de cet État sont JAT, et ils sont très bien représentés politiquement. Plusieurs des précédents chief ministers de l'Ariana étaient eux-mêmes JAT.
Alors pourquoi manifestent-ils depuis plusieurs jours ?
Eh bien, ils demandent à être intégrés dans le système donc, qu'on appelle des réservations et à bénéficier eux aussi des quotas dont bénéficient les plus basses castes, aussi bien pour l'accès aux postes de la fonction publique, mais aussi à l'enseignement supérieur.
Le gouvernement indien, depuis des années, met en place une discrimination positive, justement, pour assurer l'accès à certains postes aux différents membres des castes. Est-ce qu'aujourd'hui, quand on voit toutes ces manifestations, on n'est pas face à une certaine limite de ce système ?
Le système des réservations, donc des quotas, s'était mis en place au moment de l'indépendance, notamment avec les bases qui avaient été données par Ambedkar, qui était lui-même issu d'une caste dite intouchable. Et ce système avait pour ambition initiale, on pourrait dire, de chercher à effacer les conséquences du ce qu'on pourrait appeler un espèce de long apartheid religieux qui a longtemps prévalu en Inde. Et donc l'idée, c'était d'utiliser les réservations pour créer une société d'ego. Cet objectif initial a été petit à petit oublié et il s'est, on pourrait dire, transformé en un objectif de compensation des discriminations dont sont victimes certains groupes, trouvent de fait exclus de l'accès aux meilleurs postes. Mais alors, dans le cas des JAT et d'autres groupes qui sont mobilisés aussi pour dans les dernières années pour obtenir des réservations ou pour obtenir un certain nombre d'avantages, donc les Patels au Gujarat, les Yadav en Uttar Pradesh, les Reddy en Andhra Pradesh, et bien d'autres. On ne retrouve pas ces conditions de groupes exclus qui devraient être compensés. On a là en fait une conception des réservations qui est assez différente. Et l'idée est plutôt que ces groupes se mobilisent, comme je le disais tout à l'heure, en groupes d'intérêt pour faire pression sur l'État, pour intimider les pouvoirs politiques en place en brandissant la menace de leur banque de vote et en ayant éventuellement recours, comme c'est le cas aujourd'hui, à la violence pour essayer d'obtenir ce qu'ils cherchent à obtenir, c'est le renforcement de leurs privilèges. Donc ce n'est pas la faillite des réservations qu'éclairent les événements récents, mais je dirais plutôt que ça éclaire les tentatives de certains groupes pour renforcer leurs privilèges.
Quand on ne connaît pas l'Inde, on pense au système de caste et on pense à un système très inégalitaire et même parfois un peu anachronique. En tout cas, on a du mal à comprendre ce système très, très ancré dans l'histoire et la sociologie indienne. Mais comment expliquer aujourd'hui que ce système subsiste ?
Déjà, la caste se transforme perpétuellement. Elle n'est jamais la même. C'est pas parfois l'image d'Épinal vise à faire de la caste une espèce d'entité immuable qui serait restée la même à travers les siècles. Non, la caste se transforme et s'adapte au monde moderne, pour le dire vite. Le symptôme le plus évident du maintien de la rigidité des frontières de caste, c'est l'endogamie, c'est-à-dire le mariage à l'intérieur du groupe de caste, qui reste la règle pour l'immense majorité des Indiens. Tous les dimanches, quand on ouvre le journal, les quotidiens indiens publient des suppléments dits « matrimonials », qui offre des dizaines de pages d'annonces pour des mariages arrangés qui sont classés par caste. Et là, on voit bien un symptôme évident d'un impératif fort à préserver alors ce que certains anthropologues appelleraient la pureté rituelle des groupes de caste, donc en tout cas à préserver cette homogénéité de caste via des stratégies d'alliance. Mais c'est des logiques qui sont de moins en moins explicites dans la façon dont la caste est mobilisée dans l'espace public aujourd'hui. Je dirais qu'il y a surtout et avant toute autre chose des logiques de pouvoir qui sont à l'œuvre. C'est-à-dire que pour les groupes dominants, exclure les groupes dominés, cela revient à s'assurer qu'on n'aura pas à partager ses richesses et ses privilèges avec d'autres. Puis après, il y a aussi des logiques qu'on pourrait dire plus positives, en mettant des guillemets au terme positif. Et donc avec cette idée que dans un contexte où il n'existe ni système de retraite, ni sécurité sociale, ni assurance maladie, etc., c'est avant tout sur ses proches qu'on peut compter. Et donc œuvrer à l'unité de la caste, c'est aussi indirectement œuvrer à sa propre protection. De la même manière, hein, face à un État qui n'est pas toujours à même d'assurer la régularité des transactions sur le marché, privilégier le commerce avec les siens, c'est se mettre à l'abri de certaines incertitudes. Et par là même, c'est aussi renforcer les privilèges de son groupe en étant sûr qu'on ne partage pas ses richesses avec les concurrents.